ce message, il va être question ce matin de miracles. Mais pas forcément de miracles dans le sens où on l'entend, où on s'attend à se dire « Ah ben tiens, que va-t-il nous dire par rapport aux miracles ?» Surtout dans une église pentecôtiste, j'imagine que vous en avez entendu des messages et que la chose est bien rodée. Quel est ce miracle le plus étonnant des évangiles? Eh bien, je vous propose de le découvrir. Et c'est vous qui allez découvrir ce miracle ce matin. Et on va faire ça un petit peu avec ce jeu que vous connaissez, que vous voyez certainement dans certaines émissions à la télévision. Qui suis-je? Je vais vous donner des indications. Et en fonction de ces indications, il va falloir faire des propositions. Et pour ce faire, vous allez utiliser le buzzer qui est devant vous. Vous le voyez? Il y en a qui le voient, il y en a d'autres qui ne le voient pas, donc un petit coup de poing. Hein. Vous avez un gros buzzer rouge qui n'est pas la tête de votre voisin ou de votre voisine, ni de celui ou celle qui est devant vous, mais un buzzer rouge qui est devant vous. Donc on va voir si les buzzers fonctionnent. Parce que tout à l'heure, au premier culte, il y avait des difficultés, surtout là-bas, l'électricité ne passait pas bien. Donc, tout le monde met ses mains devant lui, comme ça, voilà. Vous avez le buzzer devant vous. Et à trois, vous allez appuyer dessus. Et bien sûr, vous allez faire le bruit qui va avec. Comment on fait un buzzer? Et en Alsace, il fait le petit accent alsacien derrière. On y va? Un, deux, trois. Ah non, mais là, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. À mon avis, ils ont dû remettre l'électricité. Allez, encore une fois, 1, 2, 3. Très bien. Alors, quand vous pensez avoir trouvé, vous buzzez, et puis ensuite, à voix haute, assez fort, vous donnez la réponse. On essaiera de voir. Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis considéré par beaucoup comme un des miracles les plus marquants, les plus stupéfiants que le Christ ait opéré. Certaines personnes, à cause de la foule, du lieu, des personnages, des détails pleins de vie de cette histoire, qualifient même ce miracle de folklorique. L'eau changée en vin. Eh bien, ce n'est pas ceci. Je suis un miracle qui s'imprègne dans l'esprit des enfants de l'école du dimanche. Je suis un miracle qui se déroule dans une maison faite de torchis. Maison dans laquelle une foule s'est agglutinée que Jésus a choisi pour y faire. Oh là là, là, ça. Oui? Le paralytique. Bonne réponse de Stéphane. Et il ira chercher son cadeau tout à l'heure auprès de Michel. Un cadeau qui est là et qui est réservé. Ah, Michel, il ne va plus m'inviter, c'est fini. Je termine quand même. Ça s'entasse, ça s'écrase de partout au point que personne n'arrive plus à passer. Je vais être porté par des hommes qui passent derrière ma maison, grimpent sur la terrasse, font un trou dans le toit et me descendent au pied de Jésus qui va me parler de pardon, ce qui me fera une belle jambe. Je suis en effet le paralytique de Capernaum ou de Capernaum. Eh bien, c'est de lui dont il va être question ce matin et nous allons lire son récit. Et je vous propose de le lire d'une manière un petit peu différente ou atypique de ce que nous avons l'habitude de faire. Récit qui se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, les 12 premiers versets, donc, de Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. Alors, quelques jours après, nous est-il dit, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent. Qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et à cette époque, vous le savez peut-être, enfin vous aviez vu ça à l'école du dimanche, pour les plus anciens, les maisons étaient faites de torchis, et donc c'était relativement facile de défaire le toit d'une maison. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-il de plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il, aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Et le texte se termine ainsi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors en effet, la foule va se concentrer dans un premier temps, ou plutôt la foule se concentre uniquement sur le miracle, comme c'est souvent le cas, parce que c'est la chose qui est spectaculaire. Mais derrière ce miracle qui a son importance, il y a autre chose qui est là, autre chose qui est présent dans ce texte. J'imagine que vous avez déjà entendu bien des messages sur ce passage. Il est vrai que c'est un passage que les évangélistes, ou sur lequel les évangélistes aiment souvent prêcher, parce qu'il est relativement simple, il est question de foi, il est question de pardon des péchés, et puis à la fois question aussi de guérison, donc deux thématiques que généralement les évangélistes affectionnent. Et souvent lorsqu'on se concentre, ou lorsqu'on parle sur ce passage, on va se concentrer sur la foi de ces quatre hommes. Et on va dire, eh bien, regardez la foi de cet homme ou de ces hommes, elle est extraordinaire, effectivement. Certains vont voir derrière la foi de ces quatre hommes le service ou la diaconie que l'Église devra rendre par la suite pour accompagner les personnes qui sont en difficulté. C'est une lecture, c'est une manière de considérer les choses qui a sa raison d'être. D'autres insistent sur la foi des quatre hommes qui, envers et contre tout, font preuve de courage. Ils trouvent des solutions et justement parce qu'ils trouvent des solutions, eh bien le Seigneur va intervenir et agir. Et c'est aussi une manière qui se défend, ou plutôt une lecture qui se défend et qui a toute sa raison d'être. Et puis d'autres encore vont relever l'hostilité des scribes qui sont là, ou le fait aussi que Jésus se fait l'égal de Dieu en pardonnant les péchés. Et pour ma part, j'aimerais me concentrer un petit peu sur cette dernière manière de lire le texte, c'est-à-dire ce focus qu'il y a, ou plutôt le fait que les religieux qui sont ici, qui sont présents, s'en prennent de manière virulente à Jésus. Et effectivement, quand vous lisez l'évangile de Marc, vous allez découvrir qu'à partir du chapitre 2 jusqu'au début du chapitre 3, c'est ce que nous disent les spécialistes, je n'ai rien inventé, Jésus va rencontrer à plusieurs reprises de l'hostilité de la part des religieux qui remettent en cause son ministère et puis surtout qui remettent en cause le fait qu'il pardonne les péchés. On va se concentrer un petit peu là-dessus et voir ce dont il est question. Dans ce passage, Jésus se bat. Il ne se bat pas physiquement, mais Jésus envoie deux grands coups aux religieux qui sont présents et par là même aussi à la foule qui est là. Deux grands coups ou alors deux grandes révolutions dont il va être question dans ce texte. Et ça formera la trame de mon message de ce matin, deux grands points sur lesquels j'aimerais insister. Donc deux grands coups que Jésus frappe. Quel est le premier coup que Jésus envoie à ceux qui sont présents? Revenons un petit peu sur notre passage. Jésus se trouve face à un malade. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien de surprenant. Des malades, il en a rencontré pendant les 3 ans de son ministère. Il en a guéri je ne sais combien de milliers. Rien d'extraordinaire. Par contre, ce qui est atypique ici, et pas courant, c'est les paroles, ou plutôt ce sont les paroles que Jésus va prononcer, puisque Jésus s'adresse à cet homme et il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Ça vous a jamais surpris? Franchement, vous êtes malade, quelqu'un vient et il vous dit tes péchés te sont pardonnés. C'est certainement pas la parole à laquelle vous vous attendiez. Cet homme s'attendait certainement à ce que Jésus peut-être lui impose les mains ou lui prononce une parole comme il le fera ensuite. Lève-toi, prends ton brancard et marche, tu es guéri. On s'attendait à quelque chose de cet ordre-là, mais là, de manière très surprenante, on est un petit peu décontenancé dans un premier temps parce que Jésus lui dit, eh bien mon cher, enfin pas mon cher, ça c'est moi qui le rajoute, tes péchés te sont pardonnés. Imaginez un petit peu la scène, vous allez voir cette semaine votre médecin ou alors vous allez voir un spécialiste et puis celui-ci, après avoir regardé les radios, le scanner ou vous avoir examiné, tout d'un coup, vous regarde dans les yeux et puis vous dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que vous allez penser de votre médecin? Il y en a qui vont crier gloire à Dieu avec raison, il s'est converti et maintenant il parle du pardon des péchés. Et puis il y en a d'autres qui vont commencer à angoisser parce qu'ils vont se dire qu'est-ce que ça veut dire? Mes péchés sont pardonnés, la prochaine étape c'est quatre pieds sous terre. C'est pas très rassurant. Et puis en plus après ils vous demandent 90 euros quoi, ou 23 euros. Ça fait cher les péchés pardonnés, là. Bizarre. Une manière atypique de procéder du Christ ici. En réalité, par cette simple phrase sur laquelle on passe souvent rapidement, et on ne sait pas forcément comment est-ce qu'il faut la comprendre, Jésus est en train de délivrer un message. Et un message qui est non seulement surprenant, mais plus que cela, c'est pour ça que j'ai intitulé le miracle le plus étonnant des évangiles. Il délivre ici un message qui est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ce que Jésus est en train de faire ici, c'est de briser le lien entre maladie et péché. Alors, quelques mots d'explication par rapport à ça, parce que certains sont peut-être surpris eh bien, que je parle de cela, ou plutôt que Jésus sous-entende cela. Remettons-nous un petit peu dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, donc nous sommes dans un contexte juif, à l'époque, que ce soit les pharisiens, que ce soit les scribes, que ce soit les sadducéens, que ce soit le peuple et même les disciples du Christ, à cette époque-là, quand quelqu'un était malade ou quand quelqu'un était handicapé ou quand quelqu'un n'allait pas bien dans sa vie, c'était forcément une conséquence soit de son péché personnel, soit du péché de ses ancêtres. On retrouve cette mentalité, par exemple, dans le livre de Job. Rappelez-vous, Job, qui n'a rien fait, ses amis vont venir, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont cesser, ils vont tout le temps l'accuser, et lui dire, et lui faire comprendre que finalement, s'il se retrouve dans cette situation, c'est quelque part qu'il doit être en porte-à-faux par rapport à Dieu. Certainement qu'il a dû pécher. Et si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un dans sa famille, et par conséquent, Dieu est juste, en le punissant ainsi. Et voilà le message qu'ils vont faire passer. Et ça, c'est un message qu'on retrouve tout au long de la Bible. Alors, j'aimerais nuancer un petit peu mon propos, chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire tout à l'heure dans le premier culte. Je ne dis pas que dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau un petit peu, mais surtout dans l'Ancien, il n'y a pas de lien entre péché et maladie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien. Il y a une certaine réalité qui existe, mais une réalité qui est assez diffuse et sur laquelle les écrits bibliques se gardent bien d'insister. Même le psaume 103, par exemple, nous dit que Dieu ne nous punit pas selon nos fautes. Même des psalmistes, 1000 ans avant la venue du Christ, avaient compris que Dieu était un Dieu de grâce et un Dieu de bonté, et que si Dieu devait nous punir en fonction de ce que nous avons fait, nous serions tous malades de chez malades. Et les médecins, ils ne s'en sortiraient pas. Déjà comme ça, ils ne s'en sortent pas, certains, parce que tellement il y a du travail. Donc, ce lien, quelque part, est présent, mais pas aussi présent que ce que nous pensons. Et du coup, à partir d'une certaine réalité qui était là, qui existait, les Juifs, à l'époque, ont pris cette réalité, et puis ils ont tiré dessus, et c'était devenu, en réalité, du gros n'importe quoi. Et cette manière de penser était présente partout dans la société. Même les disciples de Jésus pensaient ainsi. Rappelez-vous, dans Jean 9, l'histoire de l'aveugle né. Quand ils vont voir cet aveugle, première chose qu'ils vont dire au Christ, ils vont lui demander, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou alors est-ce que c'est ses parents? Pourquoi est-ce qu'ils posent la question? parce qu'à l'époque, quand on voyait quelqu'un de malade, c'était forcément soit lui avait fait quelque chose, soit ses aïeux. Et vous aviez même certains rabbins juifs, des spécialistes en casuistique, hein, qui a étudié les textes à fond et qui essayaient de chercher des réponses sur tout et n'importe quoi, qui liaient chaque péché précis à, ou plutôt chaque maladie à un péché précis. Par exemple, telle maladie, c'était tel péché. Et si on ne trouvait pas ça chez la personne, il y en a même qui allaient dire que le fœtus pouvait pécher. Et si ce n'était pas lui, lors de son développement, c'était ses parents. Il existe, bien sûr, par rapport aux parents, une certaine réalité spirituelle, notamment dans les questions d'occultisme. J'ai pu le constater des centaines de fois. Mais par rapport à la maladie, c'est quand même autre chose. Voilà un petit peu le contexte dans lequel eh bien, Jésus évoluait, et voilà le contexte un petit peu de tous ces Juifs à l'époque. Alors certains vont me dire, oui, mais tu sais, là tu nous parles de quelque chose qui se passe il y a 2000 ans. Tu es en train ce matin de nous parler d'une culture qui est autre que celle que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a évolué. Aujourd'hui, on a changé. Aujourd'hui, on n'a plus la même pensée. Est-ce bien vrai? Je voyage dans bien des églises et je ne sais combien de fois j'ai eu en entretien des personnes qui vivaient sous une chape de culpabilité, des chrétiens ou des personnes qui étaient en chemin, qui vivaient sous une chape de culpabilité, comme cette femme qui m'écrit il y a quelques mois, parce que ça fait 30 ans que sa fille, qui a aujourd'hui 40 ans, souffre. Elle a fait tous les médecins, elle a fait tous les pasteurs, elle a fait tous les bishops, elle a fait tous les archibishops et tout ce que vous voulez, et sa fille est toujours malade. Et cette femme cherche des réponses et cherche des solutions, c'est normal, partout. Et elle en est venue à se culpabiliser et à se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché, soit dans la vie de ma fille, soit dans ma propre vie. Et ce qui fait que cette femme vit sous un fardeau de culpabilité et qu'elle ne s'en sort pas. Et qu'est-ce qui se trouve derrière cela? Ce qui se trouve derrière cela, c'est peut-être, j'aurais fait quelque chose que je ne dois pas faire ou que mes aïeux n'auraient pas dû faire, et par conséquent, aujourd'hui, je récolte la souffrance, la maladie ou les difficultés. Et Jésus vient et il dit non, c'est pas ça. Je pense à l'évangéliste allemand Reinhard Bonnke, que vous connaissez certainement, qui, il y a quelques années de cela, il raconte ça dans sa biographie, il se trouvait sur le continent africain, et vous savez qu'il a des gros camions et qu'ils vont de pays en pays. Et puis alors qu'ils étaient en train de se rendre justement, je ne sais plus dans quel pays africain, voilà qu'un des camions a eu un accident grave et que deux ou trois de ses collaborateurs, vous vous rappelez peut-être de cette histoire, sont décédés. Et suite à ça, ils ont raconté ça dans leur lettre de nouvelles. Et puis vous avez des chrétiens qui les ont encouragés, mais vous en avez aussi quelques-uns qui n'ont rien trouvé de mieux que de leur écrire et de leur dire que peut-être il y avait un Achan dans leur camp. Et que peut-être si le camion avait eu un accident, et que peut-être si ces hommes qui ont consacré leur vie au Christ pour le servir avaient vécu ça et étaient morts, c'est peut-être parce qu'il y avait dans l'équipe de Bonnke du péché. Ils n'ont rien trouvé mieux à dire que ça. Et ça s'est passé il y a quelques années, c'était peut-être il y a 10 ans, au maximum 20 ans. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est présent et personne n'échappe à ces raccourcis. C'est vrai pour la maladie, mais c'est aussi vrai pour d'autres choses. C'est vrai pour des difficultés par rapport à un travail, par rapport à des difficultés peut-être dans la famille, des difficultés dans d'autres domaines de la vie, des soucis ou des choses qui sont récurrentes, on ne s'en sort pas et on se dit « mince alors, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un interdit dans ma vie. » Nous avons cette fâcheuse tendance, et moi le premier, à toujours chercher un responsable. N'est-ce pas? On cherche toujours des responsables. Si ce n'est pas moi, eh bien ça va être ceux qui m'entourent. C'est mon conjoint ou que sais-je. On cherche toujours des responsables. On cherche toujours un lien de cause à effet. Et nous avons hérité cela, non pas de la pensée juive, même si c'est un tout petit peu présent, mais c'est surtout, nous avons hérité ça de la pensée grecque. C'est la pensée grecque qui cherche à tout comprendre, à tout expliquer. Or, vous changez de culture, vous allez ailleurs et vous allez voir que les gens ne réfléchissent pas en termes de lien de cause à effet. les gens réfléchissent autrement, ils ont l'esprit différemment formaté. Et nous, c'est parce qu'on cherche toujours des responsables et des coupables, que ce soit en politique, ou alors que ce soit dans l'église, quand ça ne fonctionne pas, ou que ce soit dans la famille, ou que ce soit dans sa propre vie, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, etc. Alors que Dieu ne fonctionne absolument pas comme ça, et que la Bible ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a parfois des explications qui nous sont données, mais si je prends le cas de Job, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi Job a souffert. On sait qu'à un moment donné, le Satan, celui qui se met en travers, est venu, mais il était juste, il était bien. Comme je l'ai dit, Jésus va casser le couple péché-maladie, où il casse ce couple cause-effet. Jésus n'essaie pas d'expliquer, de décrypter, de comprendre, de chercher des responsables ou autres. D'une parole, Jésus libère cet homme. C'est comme s'il disait à cet homme et à tous ceux qui sont présents, « Eh bien, vous voyez cet homme, je viens d'enlever ses fautes, je viens de les emporter. Désormais, tu n'en as plus aucune. Cet homme est désormais sans péché et pourtant il reste malade, paralysé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être parfaitement malade et pleinement réconcilié avec Dieu. Je suis content d'entendre des « Amen ». Alors, bien sûr, on souhaite tous être guéris, on souhaite tous s'en sortir, et c'est normal. Et nous devons chercher ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas le chercher, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut être, ne pas être bien dans sa vie, et être parfaitement réconcilié avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui vont très bien dans leur vie. Encore pas plus tard qu'il y a quelques jours de ça, je rencontrais quelqu'un, tout va bien dans sa vie, tout baigne. Et ça baigne tellement qu'on se dit, ouais, il est béni. Eh bien, cette personne est totalement athée. Ah ben oui. Donc, ce n'est pas parce que tout va bien ou tout ne va pas bien qu'il y a forcément un lien de cause à effet qu'on est béni ou qu'on n'est pas béni. Et entendre ce message-là pour l'époque, vous savez, c'était un message révolutionnaire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans le premier culte, les gens croyaient volontiers à la guérison. Par contre, croire au pardon des péchés, c'était quelque chose de très difficile dans le contexte de l'époque. Parce que les gens avaient la conscience de la sainteté de Dieu, et ils savaient que pour s'approcher de Dieu, c'était super difficile. Et ils savaient aussi que pour être pardonné, c'était pratiquement, je ne vais pas dire impossible, pouvait être pardonné, mais ce n'était pas n'importe quoi. Et s'entendre dire qu'un paralysé qui reste paralysé pendant quelques secondes ou quelques minutes, tes péchés te sont pardonnés, je vous le dis, dans la pièce, dans cette maison et autour de cette maison, le Christ, bien sûr, était sans péché, lui, ça compte pas, mais le seul dont les péchés étaient pardonnés, ici, c'était cet homme. Et le seul dont les péchés étaient pardonnés, il était couché. Alors que les autres, ils allaient bien. Enfin, ils pensaient aller bien. Alors, combien de temps cet homme est-il resté ainsi? Est-ce quelques secondes? Est-ce quelques minutes ou quelques dizaines de minutes? On ne le sait pas. En tout cas, cet homme était juste, était pur devant Dieu, et pourtant, il était encore, pour l'instant, couché sur son lit. Ça, c'est le premier coup que Jésus va porter. Et croyez-moi, dans le contexte de l'époque, eh bien, les chefs religieux l'ont parfaitement compris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu tellement de mal. Deuxième coup que Jésus porte, et je terminerai avec cela, nous le trouvons au verset 7. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Diront les scribes, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Alors là, les religieux sont doublement surpris. D'abord, ils sont surpris parce que, comme on l'a vu, Jésus va casser ce fameux dogme maladie-péché, mais ensuite aussi parce que Jésus, ici, pardonne les péchés à un homme. Jésus, pour ces personnes qui étaient là, c'était qui? Remettons-nous un petit peu dans le contexte de l'époque. Jésus, c'était ce qu'on appelait un rabbi, c'est-à-dire c'était un maître. Et des maîtres comme Jésus, à l'époque, il y en avait plein. C'était des personnes qui avaient un certain charisme, qui avaient un enseignement, généralement un enseignement spirituel, et qui avaient autour d'eux ce qu'on appelait des disciples, des personnes qui étaient convaincues de ce qu'elles disaient et qui allait les suivre, qui allait recevoir l'enseignement et qui allait profiter eh bien, de l'aura quelque part de cette personne. Et Jésus était un rabbi, certes, c'était un rabbi, un maître totalement différent des autres, mais pour les religieux qui étaient là, il était considéré juste comme un maître spirituel. C'est tout, ni plus ni moins. Ils n'avaient aucune considération pour Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus n'avait pas fait leurs études, parce que Jésus les remettait sans cesse en cause, parce que Jésus parlait avec autorité, parce que Jésus guérissait les malades, parce qu'ils en prenaient plein la figure. Et pour eux, c'était une remise en question qui était forte. Mais alors là, c'est le coup de massue parce que Jésus s'adresse à cet homme et il va lui dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Et le problème ici, c'est quoi ? Le problème, c'est que Jésus s'arroge un droit qui n'appartenait ou qui n'appartient qu'à Dieu. En disant « Tes péchés te sont pardonnés », qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Il est en train de se faire l'égal de Dieu. Et pour un juif qui proclame tous les jours dans le schéma Israël que Dieu est un et que là, un rabbi pardonne des péchés et en pardonnant les péchés se fait l'égal de Dieu, c'était un truc totalement inconcevable. Alors c'est juste, c'est vrai que Jésus ici se fait l'égal de Dieu. Et généralement, on va s'arrêter à cette lecture et on ne voit pas plus loin. Mais en allant un petit peu plus loin, eh bien, posons-nous quelques questions. Par exemple, qui avait autorité à cette époque-là pour pardonner les péchés ? Qui pouvait dire à quelqu'un, par exemple à mon frère, à ma sœur, qui pouvait dire « tes péchés te sont pardonnés ». On n'a pas besoin du buzzer. Qui pouvait dire cela ? Pardon ? Personne ? Si, quelqu'un pouvait le dire. Oui, tout à fait. Alors, soit le grand sacrificateur, soit les sacrificateurs, soit les prêtres. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, les prêtres, eh bien, officiaient, c'était des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Si on voulait être pardonné, si on voulait recevoir quelque chose, il fallait passer par un intermédiaire qui était le prêtre. Pour la petite, juste une petite parenthèse, si on regarde, eh bien, nos amis catholiques se sont calqués ont calqué leur modèle cultuel beaucoup sur l'Ancien Testament, sur ce modèle-là, ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi parfois, eh bien, vous avez des personnes qui vont vous dire, voilà, si on veut être pardonné, il faut qu'on aille à la confesse ou autre. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont calqués beaucoup sur le modèle de l'Ancien Testament, donc avant ou juste au moment où le Christ est venu. Et en effet, pour recevoir le pardon des péchés au moment du Christ, il fallait passer par ce qu'on appelle une médiation humaine. Et le problème ici pour les scribes, c'est que les conditions ne sont pas remplies. Et que par conséquent, puisque ce n'est pas rempli, comment est-ce qu'un rabbi, même un maître comme Jésus, peut prononcer ce genre de paroles ? Pour que les péchés soient pardonnés, il fallait qu'il y ait 5 conditions qui soient remplies. 3 régulièrement et puis 2 autres, enfin surtout une de temps en temps. Quelles étaient ces conditions ? Les conditions étaient au nombre de 5. La première condition, je l'ai dit, il fallait un intermédiaire. Il fallait un prêtre qui était là et qui était un médiateur entre Dieu et les hommes. Deuxième condition, il fallait qu'il y ait une victime expiatoire. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui commet un péché, eh bien, il fallait que pour que ce péché soit pardonné, la personne aille au temple avec un animal, soit un animal plus conséquent si elle avait les moyens, si elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle prenait une tourterelle, ou parfois même des sacrifices végétaux, un sacrifice végétal était aussi accepté dans certains cas, et puis ensuite c'était brûlé sur l'autel. Et à partir du moment où c'était brûlé sur l'autel, la colère de Dieu se détournait de la personne qui avait commis un péché, et la personne s'entendait dire de la part du prêtre, eh bien voilà, maintenant, tes péchés te sont pardonnés. Ou elle le comprenait qu'à partir de ce moment-là, elle était en règle avec Dieu. Et pour un Israélite, pour un croyant à ce moment-là, c'était quelque chose de super important. Parce que les gens avaient cette crainte, cette peur de Dieu qui était là. Troisième condition, je l'ai dit, il fallait aussi le temple. Alors, avant qu'il y ait le temple, c'était la tente de la rencontre dans le désert, vous le savez, avec Moïse, et par la suite, il fallait aller au temple de Jérusalem, à tel point que ça devait très bien marcher, puisque c'était devenu un véritable business. Étant donné qu'à un moment donné, le Christ va se fâcher et va renverser les marchands du temple. Ils étaient tous là et ils vendaient eh bien, des animaux pour les sacrifices, justement, pour que les gens soient pardonnés. Et comme l'être humain est par définition et fondamentalement pécheur, donc c'était très lucratif leur histoire, quoi. Et Jésus va réorienter la chose. Et puis, il y avait aussi besoin, il y avait aussi un jour dans l'année qui était très important. Et ce jour, c'est ce qu'on appelait le Yom Kippour. Et quelqu'un tout à l'heure en a fait plus ou moins référence en parlant du grand prêtre. Il y avait un jour dans l'année où tous les péchés du peuple pouvaient être expiés. Et ce jour-là, dans la liturgie juive, c'était le Yom Kippour. C'est-à-dire, c'est le jour du grand pardon. C'était un jour qui était super important pour les Juifs. Parce que ce jour-là, le grand prêtre, qui s'était préparé pendant plusieurs jours, eh bien, rentrer une fois par an dans le lieu très saint. Et là, dans le lieu très saint, il allait derrière ou au-dessous du coffre de l'Alliance, le coffre de l'Alliance qui était recouvert d'or et deux chérubins qui étaient en or massif qui se touchaient. Et là, sous le couvercle de l'Alliance, il versait le sang d'un animal. Et en versant ce sang sur le couvercle, Dieu ensuite allait octroyer à tout le peuple le pardon de ses péchés. La difficulté, c'est qu'il y avait un protocole extrêmement précis et qu'il ne fallait surtout pas se planter. Si le grand prêtre se plantait, il était foudroyé par la présence de Dieu. Et du coup, c'était reporté, j'imagine, pour une année. Alors, je ne sais pas combien de fois il y a eu ce genre de problème, on a peu d'infos, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un jour important. Et pour le juif, c'était un jour tellement important qu'il ne disait même pas le Yom Kippour, il disait c'est le jour de l'année où là, on reçoit le pardon. C'est un jour qu'il ne faut surtout pas louper. Et puis, cinquièmement, vous avez plusieurs textes, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui nous disent que pour être pardonné, il faut reconnaître ses fautes, puisque le pardon de Dieu n'est pas automatique. Dieu, ce n'est pas un distributeur où je mets 2 euros et puis je reçois mon coca, ou alors je reçois mon cappuccino, non. Le pardon de Dieu n'est octroyé qu'à partir du moment où je reconnais que je suis pécheur, que j'ai mal agi, que je confesse mon péché, et que je fais, à ce moment-là, ce que Dieu demandait de faire. On comprend donc pourquoi c'était très, très compliqué ici. Et s'il manquait une chose, ou une erreur, le pardon ne pouvait pas être donné. Et donc, quand Jésus dit à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés », on comprend l'étonnement des religieux. Il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de victime, il n'y avait pas de temple, on n'était pas le jour du grand pardon, et il n'y avait pas de repentance. Vous imaginez? Le gars, il ne s'est pas repenti. Hein, et Jésus ne lui a pas dit « Écoute, maintenant, tu vas répéter la prière du pécheur. Répète après moi. Dieu, Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. » Absolument pas. Si le Christ veut dire à quelqu'un « Tes péchés te sont pardonnés », eh bien, il le fait. Lui seul connaît le cœur de la personne. Autrement dit, aucune condition n'était réunie. Sur les 5 conditions que Dieu avait données, aucune condition n'est réunie, eh bien, ce jour-là. En une seule phrase, Jésus pulvérise tout. Les prêtres, les sacrifices, le lieu saint, les fêtes, même le jour du grand pardon, la repentance, les jeûnes, tout le tralala. On comprend donc pourquoi il sera accusé de blasphème. En réalité, dans cette petite phrase, Jésus dit quoi? Jésus dit 5 choses. D'abord, il dit, le grand prêtre, maintenant, c'est plus celui-là là, que vous connaissez, le grand prêtre, maintenant, c'est moi. Et si vous lisez l'épître aux Hébreux, vous verrez que toute l'épître aux Hébreux est consacrée à montrer que Jésus est au-dessus. Il est au-dessus des anges, il est au-dessus des hommes, il est au-dessus de tout. C'est lui le grand prêtre. C'est lui qui nous introduit dans la présence de Dieu. C'est lui qui désormais a autorité. Ensuite, Jésus est aussi la victime. Jean-Baptiste, lorsqu'il va voir Jésus, que dira-t-il? Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ne s'est pas trompé, il a reconnu, il a vu dans la personne de Jésus celui qui devait venir, celui qui devait mourir sur une croix celui par lequel aujourd'hui tout être humain peut être sauvé, pardonné, libéré et restauré. Il n'y en a pas d'autre. Et si on vous a dit qu'il y en avait un autre, on vous a menti. Ensuite, il est le grand jour. Il résume dans sa personne le grand jour. Et il résume dans sa personne parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il n'a jamais commis de péché, parce qu'il vient d'en haut, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, il a la capacité de porter les fautes de tous les êtres humains et il a la capacité d'octroyer, de pardonner toutes celles et ceux qui s'approchent de lui aujourd'hui encore. Et puis, il est le temple. Il est le temple. Aujourd'hui, plus besoin d'aller dans un lieu. Ce matin, vous êtes venus dans ce lieu et c'est bien. Et nous avons besoin de lieux pour nous réunir. Mais Dieu n'est pas présent dans un lieu parce que ce lieu s'appelle église. Dieu n'est pas présent dans un lieu parce que ce lieu s'appelle temple. Dieu n'est pas présent dans un lieu parce que ce lieu s'appelle cathédrale. Dieu n'est pas présent dans un lieu parce que ce lieu s'appellerait mosquée ou il porterait un autre nom. Dieu, désormais, est présent partout. Et le temple, c'est qui? C'est toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans la personne de Jésus, qui le suivent, qui deviennent le temple du Saint-Esprit. Et c'est en nous alors, quand nous sommes connectés à Dieu par Jésus-Christ, que nous devenons le temple de Dieu et que Dieu se manifeste. Par conséquent, je peux être dans un endroit qu'on appelle église et Dieu se manifestera, mais pas à cause du lieu parce que je suis là. Je peux être en train de pousser mon caddie au supermarché, à Auchan ou à Cora ou à Super U ou à je ne sais pas où vous faites vos courses. Hein. Je peux être dans ma voiture et vivre et ma voiture peut devenir un temple. Je peux être sous ma douche et vivre un temple. Et je peux être en train de faire la cuisine et me réjouir parce que Dieu est présent. Et grâce à Jésus, instantanément, immédiatement, la connexion se fait. Souvent, nous pensons qu'il y a besoin de 36 000 rites pour que la connexion se fasse. Non, la connexion se fait dans notre esprit, dans notre cœur. Tout de suite là, je peux être connecté à Dieu. Et je le suis. Et puis, Jésus est le couvercle de l'arche. Il est celui qui, par son sacrifice à la croix, a pris toutes nos fautes, tous nos péchés. Et puisqu'il a versé son sang une fois, et puisqu'il est fils de Dieu, désormais, plus besoin de sacrifice. Donc vous comprenez que les chefs religieux ne sont pas contents. Parce que ce que Jésus remet en cause, c'est quoi? Il est en train de remettre en cause leur business. Hein? Il est en train de remettre en cause leur fonction. Il est en train de remettre en cause tout ce qu'ils faisaient. Il est en train de leur dire, les gars, il va falloir tout réorienter maintenant. Parce que tout le tralala, là, l'autorité que vous aviez, tout ça, c'est fini, c'est terminé maintenant. Maintenant, tout passe désormais par moi. Et vous comprenez aussi pourquoi ce miracle est, en effet, un miracle très étonnant. Alors, je conclue tout doucement, après de telles affirmations, le message de Jésus, bien sûr, ne pouvait pas se terminer autrement qu'en disant à cet homme, prends ton brancard et marche. Si Jésus était parti et n'avait pas guéri cet homme, il aurait passé pour un fou ou pour un imposteur. Donc la moindre des choses, c'était de le guérir. Mais qu'est-ce que guérir cet homme pour le Christ, hein? Il va le regarder simplement et il va lui dire, prends ton brancard et rentre chez toi. Et ce jour-là, c'est un miracle extraordinaire parce que non seulement cet homme s'entend dire « tes péchés te sont pardonnés », et ça, certainement que ça, il a dû en reparler dans la journée, dans les semaines qui ont suivi, mais en plus, il s'entend dire aussi « voilà, maintenant, je rentre chez moi et je retrouve une pleine et une totale santé ». En réalité, ce jour-là, Jésus accomplit plusieurs miracles. Le premier miracle qu'il accomplit, c'est déjà de libérer cet homme du poids de la culpabilité qui pesait sur lui. Et je crois que le premier miracle que Dieu veut accomplir aujourd'hui, c'est celui-là. Nous libérer de nos culpabilités, nous libérer du poids du péché. Et si ce matin, eh bien, vous êtes venu ici, vous venez ici depuis un certain temps et vous ne savez pas trop où vous en êtes avec Dieu, sachez ou retenez simplement ceci. Dieu est vivant, Dieu vous aime, il est prêt à se manifester dans votre vie. Pour aller à Dieu, c'est très simple. Allez à Jésus. Écoutez ce que Jésus a dit. Repentez-vous de vos péchés croyez dans la personne de Jésus en son sacrifice. Et à l'instant même, Dieu pardonnera votre péché et il vous libérera du poids de la culpabilité qui est là. Et une fois qu'on est libéré, il faut veiller à ne pas retomber dedans. Parce que sans cesse, en tant que chrétien, une fois qu'on a fait cette démarche, on est toujours en train de faire parfois une introspection dans notre vie. Parfois, il y a des introspections qui sont nécessaires et qui sont salutaires. Parfois même, Dieu va utiliser quelqu'un pour dénoncer un péché dans notre vie. Ça peut arriver. Mais souvent, il y a des introspections qu'on fait dans notre vie qui n'ont pas lieu d'être et qui sont là, des culpabilités, des poids qui sont là, qui sont présents et qui viennent davantage eh bien, de croyances que nous nous sommes forgées ou d'une certaine compréhension de l'Écriture ou parce que nous avons entendu telle ou telle phrase et nous nous disons « Ah, mais c'est ainsi ou c'est comme ça ». Et donc, nous vivons sous un poids de culpabilité et nous sommes tout le temps en train de chercher une cause à effet et nous ne rentrons pas pleinement dans ce que le Seigneur nous a donné. C'est comme si nous étions encore retenus. Et l'ennemi se marre. Le Christ est venu pour nous libérer. Nous libérer non seulement de nos péchés, mais nous libérer de tout carcan religieux, de tout dogmatisme qui n'a pas sa raison d'être. Il y a un dogmatisme qui a sa raison d'être, et Dieu merci, mais de toute chose qui mettrait sur nous encore une couche dans notre vie et qui nous empêche d'être pleinement ce qu'il nous a donné d'être et qui est déjà présent en nous, mais qui ne demande qu'à s'exprimer, tout simplement. Et puis, deuxième miracle que Jésus accomplit ce jour-là, et ça, c'est un petit peu moins réjouissant, surtout pour les religieux, il explose le culte israélite. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire que les Juifs ont eu tort d'avoir des sacrifices et des prêtres et le temple. Tout ça, Dieu l'a donné à Moïse, et tout ça, ça avait sa raison d'être. Mais Jésus est en train de dire, là maintenant, tout votre tralala, là, tout ce qui est devenu un immense business, tout ça c'est fini maintenant. Il explose tout, il explose les codes. Vous comprenez qu'ils sont déstabilisés. Et effectivement, quand quelqu'un explose tout dans notre vie, ou quand le Seigneur tout d'un coup, hein, la conversion c'est ça, c'est une explosion. C'est parfois difficile à vivre. Et puis troisièmement, que va-t-il faire pour cet homme? Il le guérit, comme je disais tout à l'heure. Et vu la situation, il ne pouvait pas faire moins pour cet homme que de lui accorder à nouveau une santé pleine et entière. Alors oui, en effet, ce miracle de l'Évangile est un miracle étonnant. Et aujourd'hui, je vous ai proposé une lecture un petit peu différente de celle que nous avons l'habitude. Et c'est ces deux pensées que nous voulons retenir en toute simplicité. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Il est tout ce dont j'ai besoin, il est tout ce dont nous avons besoin. En Jésus se trouve le pardon des péchés, en Jésus se trouve la libération, se trouve la guérison, en Jésus se trouve aussi la libération de tous les carcans, de toutes ces choses qui pèsent parfois dans nos vies. Il est tout ce dont j'ai besoin et en lui je trouve tout pour accéder à Dieu et pour être heureux dans cette vie et dans l'éternité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, notre cher Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci d'avoir coulé le sol de ce monde il y a 2000 ans. Nous te remercions pour tous ces beaux miracles que tu as accomplis et pour tous ces messages tellement remuants et déstabilisants aussi que tu as donnés. Alors nous les voyons bien des siècles après, et nous ne savons pas comment est-ce que nous aurions réagi à ce moment-là. Peut-être que nous aurions été certainement, en tout cas pour ma part, comme les pharisiens. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous libérer. Merci parce qu'on peut être malade. Merci parce qu'on peut avoir des difficultés. On ne te dit pas merci pour les difficultés, mais on te dit merci parce qu'on peut avoir des difficultés dans nos vies. On peut avoir des moments qui sont particulièrement difficiles, parfois au travail, dans la famille ou autre. Et pourtant, on peut être pleinement réconcilié avec toi. Et on veut vraiment te dire merci pour ça. Merci, Seigneur. Merci parce que ton regard sur nous est un regard qui est positif. Nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance pour cela. Te dire merci aussi parce que nous pouvons venir avec simplicité devant toi ce matin. Et puis merci parce que nous avons tous, enfin plusieurs parmi nous, nous avons déjà entendu cette parole, tes péchés te sont pardonnés. Et si vous n'êtes pas sûr que vos péchés soient pardonnés, alors vous pouvez simplement dire ce matin une prière pouvez dire, eh bien, Jésus, sauve-moi maintenant. Hein, sauve-moi. Et puis ensuite, vous pouvez aller voir un pasteur de cette église ou quelqu'un qui vous a amené ici et lui dire, voilà, moi j'ai entendu ce matin, moi je veux aussi être sauvé. Moi je veux aussi être connecté à Dieu parce que comme Jésus parle de Dieu, ça me plaît. Allez simplement voir cette personne. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as l'œuvre au milieu de nous. Et je te remercie parce que tu es bon et parce que tu veux nous libérer aussi de tous ces schémas et ces carcans qu'on se met. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce message libérateur. La Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. À l'écoute de cette parole, on sent l'intention de Dieu de libérer les hommes et les femmes sous certains carcans.